La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Il y a quelques semaines, il fut question dans le débat public d'une proposition de loi visant à pénaliser l'antisionisme, avant que cette idée ne soit rapidement écartée par le président de la République lui-même dans un discours prononcé à l'occasion du dîner du CRIF. Beaucoup de choses furent écrites alors à propos de l'antisionisme, de ses liens avec l'antisémitisme et aussi bien entendu à propos du sionisme. Peu de choses pourtant qui nous auraient permis de mieux comprendre ce que fut le sionisme et ce qu'il n'est plus. Et ce qu'il fut d'abord, c'est un humanisme. C'est la thèse que démontre magistralement dans un essai brillant Uri Eisenzweig. Il est aujourd'hui l'invité de la suite dans les idées. Où vivre ? C'est le titre du roman que Carol Zalberg a fait paraître il y a quelques mois aux éditions Grasset. Elle nous rejoindra pour la deuxième partie de l'émission. Où vivre ? Sans point d'interrogation. Mais c'est néanmoins une question évidemment centrale dans cette histoire du sionisme, cette histoire intellectuelle que propose Uri Eisenzweig. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de littérature française et comparée à Rutgers University aux États-Unis. Vous publiez dans la librairie du 21e siècle au Seuil le sionisme. Fut un humanisme. Alors, cette émission, elle a lieu quelques heures après un tweet du président américain, Donald Trump, à propos de la reconnaissance future, annoncée en tout cas par lui, officielle, des États-Unis, des frontières israéliennes qui ont résulté d'une guerre. Et c'est par là. C'est par cette date de 1967 que vous commencez votre livre et par un bégaiement, Uri Eisenzweig.
Oui, c'était un moment assez bizarre. D'ailleurs, j'étais réserviste à ce moment-là. On attendait la guerre. Et oui, Lévi Eshkol, le Premier ministre, il a parlé, puis il a bégayé. Et ça a consterné tout le monde. Moi, moins, mais j'étais quand même, j'avais 20 ans. Donc. Mais je trouve ce bégaiement, rétrospectivement, rafraîchissant, en même temps triste, parce que c'est le dernier moment, et effectivement, 67, c'est un tournant. C'est ce bégaiement, je l'interprète, peut-être, j'exagère peut-être, je veux dire, j'en fais un symbole, d'un recul face à ce qui va se passer. Et ce qui va se passer, c'est en fait, je crois, enfin... Je propose que ce soit vu comme vraiment un moment où le sionisme n'a plus cours du tout, où ce qui se passe, où les intérêts, les luttes et les enjeux ne sont plus du tout ceux du sionisme des origines. Alors évidemment, le sionisme des origines, ce que j'appelle le sionisme des origines, c'est les textes fondateurs et, disons, les 20-30 premières années, où le sionisme a hésité. Et cette hésitation, qui est peut-être un petit peu parallèle, ou si vous voulez, correspond un peu à un bégaiement, pour moi, signifie le projet initial, qui est fondamental, qui est humaniste, qui n'est pas du tout de conquérir, qui n'est pas du tout d'occuper, qui n'est pas du tout, d'ailleurs, même seulement la Palestine, ou pas nécessairement un État, mais... Un discours qui, très logiquement, centré sur le malheur des Juifs dans la diaspora, cherche un refuge, pense à un refuge. Et je crois que ça disparaît pendant quelques décennies, ça diminue. Et depuis 67, je crois que c'est vraiment... Nous sommes passés à un autre stade. Et ce sionisme-là, c'est fini, c'est passé.
Ce que fut le sionisme, parce que c'est vrai que des disparitions, il y en a plusieurs dans l'histoire qui sont jamais complètement, totalement définitives, sauf peut-être celle de 1967 qui vous semble très importante. Mais on va revenir sur certaines de ces disparitions. Ce travail, Uri Eisenzweig, qui est le travail d'un spécialiste de littérature, il prend place aussi dans une suite de livres, et notamment le précédent paru dans cette même collection sur les origines littéraires du fascisme. Et donc, dès le deuxième paragraphe du livre, après vous être intéressé au bégaiement, vous rapprochez, de façon qui peut paraître inattendue, incongrue, les dates de publication de deux livres extraordinairement différents. D'abord, le livre important dans l'histoire du sionisme, sans doute le plus connu, celui de Theodor Herzl. Et puis, le livre de Maurice Barrès, Les Déracinés. Pourquoi ce rapprochement?
Oui.
Outre le fait que vous êtes un spécialiste de ces origines littéraires du fascisme.
Oui, enfin, le grand spécialiste de Barrès, c'est Zeev Sternel. Mais effectivement, Barrès, dans Les Déracinés, décrit une France, et surtout la Lorraine, bien sûr, mais la France, comme étant une sorte de point d'ancrage organique de l'identité française. Et les moments antisémites dans le roman, qui sont seulement des moments, ce n'est pas l'essentiel du roman, mais ils sont là, parce que c'est quand même publié en été 1897, et l'affaire Dreyfus va éclater en novembre. Donc, et c'est à ce moment-là qu'en fait Barrès prend parti et va devenir le porte-parole de l'antisémitisme qui va devenir l'antisémitisme français du XXe siècle. Et juste avant, donc, il publie Les Déracinés, dans lequel cette terre de France est une terre vivante, une terre à laquelle l'identité française est associée organiquement et dont les Juifs sont, par définition, exclus. Et ce qui m'a frappé quand j'y suis revenu, c'était effectivement le contraste avec le territoire rêvé de Herzl, qui, lui, non seulement n'est pas une terre organique, mais au contraire est un concept abstrait où, si vous voulez, l'absence ou la négation de la Palestine comme objectif principal garantit, ou si vous voulez, correspond à cette vision abstraite d'un territoire qui est nécessaire pour que s'établisse un refuge pour les Juifs persécutés. Il y a ici un contraste extraordinaire entre l'humanisme de Herzl, ou plutôt de cette pensée, parce que Herzl était finalement un bourgeois viennois qui n'était pas qui était ok, mais enfin, je veux dire, c'était pas une voie majeure de l'humanisme. Mais l'idée, qui n'est pas la sienne seulement, et qui était déjà là avant, l'idée de la cohérence de ce discours qui pense le refuge, le pur refuge, dépend aussi de la négation du privilège palestinien. Et c'est ce qui va se passer pendant 10, 20, même presque 30 ans.
Alors ça, c'est l'effort majeur de votre livre, que de mettre au cœur ce paradoxe, ce qui semble aujourd'hui un paradoxe, dont l'histoire officielle a recouvert la réalité à la fois théorique, mais aussi pratique, pragmatique de cette pensée de l'époque. C'est-à-dire que, au fond, ce que vise le sionisme n'a rien à voir avec certaines définitions contemporaines du sionisme comme nationalisme, mais c'est tout le contraire. Et cette opposition avec Barrès permet, dès l'entrée du livre, de le comprendre. Mais c'est l'histoire de ce paradoxe que vous faites, c'est-à-dire ce que vous avez caractérisé à l'instant comme la négation de la Palestine comme destination de ce projet politique, que vous retracez à travers des œuvres. Et cela ne commence pas, comme vous venez de le dire, avec Herzl. Cela, vous choisissez de le faire commencer avec S, avec Moses S.
Oui, je prends le texte « Rome et Jérusalem » de Moses S. et celui de Smolensky, mais eux parlent de la Palestine. Sauf que l'argument majeur n'est pas celui de la Palestine. C'est-à-dire, ils disent, oui, la Palestine, normalement, mais ce qui les intéresse, c'est l'idée d'une nation, ou ils disent nation, l'idée d'une concentration territoriale, un refuge territorial pour les Juifs, pour résoudre le problème de l'antisémitisme. Alors, oui, ça commence avec S, revenu de sa vision assimilationniste de la question juive. Et puis Smolensky, qui lui ne devait pas en revenir parce qu'il était profondément ancré dans la tradition et la culture juive.
Faut bien comprendre que, en fait, c'est par exemple, l'assimilationnisme de Hess est brutalement remis en question par des événements tragiques, par des pogroms qui, au XIXe siècle, font soudainement prendre conscience qu'il faut trouver ce refuge dont vous parliez. C'est ces événements historiques qui sont à l'origine de cet humanisme et non pas une tradition culturelle, philosophique, qui puiserait ses racines dans le judaïsme. Ça, c'est important de le comprendre.
Tout à fait. Alors, le premier texte fondateur, qu'on appelle vraiment texte fondateur, il y a deux textes fondateurs dans l'histoire du sionisme, c'est Auto-émancipation de Pinsker en 82 et le Judenstaat, l'État des Juifs de Herzl en 96. Tous deux suivent un traumatisme où, je dirais pas proviennent, mais sont écrits à la suite d'un traumatisme, les pogroms de 81, la suite de l'assassinat du tsar en Russie pour Pinsker et évidemment l'affaire Dreyfus pour Herzl qui était correspondant de son journal viennois à Paris à ce moment-là. Et c'est pas tellement l'affaire, c'est pas tellement le procès, c'est la scène de la dégradation avec les hurlements antisémites de la foule qui l'avait vraiment choqué. Là, ce sur quoi j'insiste, c'est cette négation de la Palestine qui n'est possible effectivement que en fait parce que Pinsker et Herzl étaient tous les deux, en fait, étrangers à la communauté juive, ou essentiellement étrangers, n'étaient pas du tout ancrés dans une tradition. Pinsker avait longtemps pensé aussi à la russification des juifs de Russie. Herzl, lui, n'était pas assimilé, mais enfin était très étranger à la vie communautaire et à la tradition juive. Donc il fallait ces gens-là pour pouvoir formuler ce discours, pensée qui était radicalement nouvelle. Parce que justement, la Palestine, Herzl n'était pas opposé, mais il y était totalement indifférent. Du coup, effectivement, elle apparaît à peine dans le livre. Et puis, dans son action, elle est très mineure. Il cherche des territoires à Chypre, dans le Sinaï, en Mésopotamie, etc. Mais il fallait ces gens-là. Parce que justement, le sionisme n'est pas du tout, le sionisme des origines ne résulte pas du tout, ne concerne pas du tout le juif comme héritier d'une tradition. Mais le juif comme, et c'est là que je parle d'humanisme, comme l'autre de la société de l'époque. C'est-à-dire celui qui ne peut pas s'assimiler, celui qui ne peut pas devenir même. Et cette focalisation sur l'altérité du juif, dans les discours de Pinsker et Herzl, c'est vraiment le fondement de cet humanisme. Alors, évidemment, le sionisme entraîne des développements qui vont mener à une histoire qui était sans doute inévitable. En 1905, quand il y a eu la... 1903-1905, quand il y a eu la question de l'Ouganda, quand on y pense une seconde...
Oui, alors il va falloir qu'on s'y arrête, parce que c'est absolument
c'est hallucinant,
incroyable. C'est-à-dire que il a failli, mais très 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 sérieusement, les négociations, les discussions ont été très avancées. Après que d'autres pistes aient été explorées en Amérique latine, on vous le dit, en Mésopotamie, à Chypre, etc. D'ailleurs, c'est Chypre qui, si je me souviens bien, permet. Non, c'est pas Chypre, c'est
le Sinaï.
C'est le Sinaï, la discussion avec les Anglais qui permet que la piste ougandaise, c'est-à-dire au Kenya, en fait, soit prenne de l'importance.
Oui.
Et ça s'est joué. Je sais pas si on peut dire que ça s'est joué à peu de choses, mais en tous les cas, il y avait une réalité de cette perspective.
Oui, je ne suis pas sûr qu'elle se soit jouée à peu de choses, mais l'idée... Alors, évidemment, les historiens, plus tard, et surtout l'historiographie sioniste officielle, dira, bon, c'était des moments d'égarement, des moments ils ne se rendaient pas compte, c'est pas sérieux, ce sont des erreurs, ça n'a aucun rapport avec l'histoire du sionisme qui mène à Israël. Pour moi, c'est un moment révélateur. S'il en fallait, que ces gens-là puissent débattre pendant 2 ans de cette idée qui, pour nous, quand même, est absurde, l'idée d'un foyer juif, d'une nation juive en Ouganda. Alors, en fait, c'est dans la partie orientale du Kenya. Mais je veux dire, c'est absurde. Non, cette absurdité montre la motivation fondamentale. C'est-à-dire, c'est l'Ouganda est comme la preuve par neuf.
Que ça pouvait être nulle part et partout à la fois. C'est-à-dire que au fond, les coordonnées géographiques, la dimension culturelle, historique, n'importait pas. C'était pas
absolument
ça la question. Les questions qui se posaient, c'était davantage des questions pratiques, de ressources, de transport, de faisabilité au fond du projet.
Tout à fait. Et c'est ce qu'ils examinaient pendant 2 ans. Évidemment, Herzl étant mort entre-temps, ils ont la partie plus traditionnelle ou nationaliste du sionisme a réussi à, peut-être heureusement d'ailleurs, à annuler ce projet, à rejeter ce projet et à décider que plus jamais ne serait pris en considération quelque territoire que ce soit qui ne soit pas la Palestine. Et sincèrement, je ne crois pas qu'on puisse croire que ça aurait pu être ailleurs. Donc, ce n'est pas vraiment... c'est un moment qui, tout en ne conduisant pas à l'État d'Israël, donc en fait c'est un moment, si vous voulez, passager, un bégaiement, mais c'est un bégaiement qui est tellement révélateur...
Très significatif, au fond, de ce que vous mettez en valeur, c'est-à-dire cette dimension humanif.
Voilà.
C'est la preuve. Au fond, le fait même qu'on ait pu sérieusement parler de l'Ouganda est la preuve du caractère humaniste au sens de l'altérité dont vous parliez.
Tout à fait. Évidemment, ça aura des conséquences, peut-être inévitables d'ailleurs, mais ne pensant jamais particulièrement à la Palestine, ces sionistes-là n'ont jamais pensé particulièrement aux Palestiniens. Donc, il y a un aveuglement d'origine, mais c'est pas un aveuglement, c'est pas une vision colonialiste. C'est un aveuglement parce qu'en fait, la Palestine était un des territoires possibles. La question était vraiment de sauver les Juifs qui étaient effectivement en grand danger. D'ailleurs, ça a été prouvé plus tard, mais le sentiment d'un grand un danger grandissant, le besoin d'un refuge. Du coup, cette indifférence à la Palestine, pour moi, elle est comme une pierre de touche de l'humanisme sioniste des origines.
Pour le dire autrement, c'était la question d'un départ et pas celle d'un retour, vous écrivez.
Oui, tout à fait. Le retour, évidemment, toujours le retour à Sion était une idée centrale pour la tradition juive. Retour seulement quand le Messie arrive, d'ailleurs. Donc, c'est d'ailleurs pour cela que les premières décennies du mouvement sioniste, dans ce mouvement, il y a eu peu de... Si vous voulez, les juifs orthodoxes ont joué peu de rôle. Mais oui, c'est une révolution, le sionisme est une révolution dans la mesure où justement il parle de départ. Et c'est là que Hess, Smolenskine et d'autres, tout en parlant de la Palestine, sont centrés sur la question du départ. Il faut partir. Évidemment, en 81, à partir des pogroms en Russie de 81, il y aura des départs, il y aura 3 départs. En fait, je crois qu'il y a 3 émigrations. Il y a la Palestine. Peu de gens, mais une destination importante. Il y a l'Amérique qui sera beaucoup plus importante numériquement. Mais je considère aussi que le socialisme, l'idéal socialiste, sera une troisième émigration, une sorte de voyage
imaginaire
vers une société future. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que un grand nombre de juifs, d'ailleurs plus que les sionistes à l'époque, vont rejoindre des mouvements socialistes en Russie, en Europe de l'Est, moins en Europe de l'Ouest, mais c'est 3 départs, si vous voulez, de la condition juive qui existait jusqu'alors.
Alors, je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs fins de cette idée du sionisme dans l'histoire. Le fait d'écarter définitivement la solution ougandaise, qui était une autre façon de décider au fond que ce serait la Palestine et nulle part ailleurs, est sans doute la première fin, mais ça ne veut pas dire que cette idée humaniste du sionisme va mourir pour autant dès le tout début du XXe siècle. En fait, elle va se poursuivre, et c'est ce que vous explorez dans la suite de votre essai, Uri Eisenzweig, à propos des territorialistes de ce mouvement qui
oui.
continue de prospérer intellectuellement, en tout cas.
Oui, Je dirais pas qu'il a prospéré, mais c'est une curiosité extraordinaire, en fait. C'est pendant 20 ans, donc il y aura une scission. Un des proches collaborateurs de Herzl, un des premiers d'ailleurs, c'était Zangwill, Israël Zangwill, l'écrivain, qui était à l'époque très célèbre. Et il y a scission, il y aura plusieurs mouvements territorialistes, comme on dit, ceux qui pensent que le territoire doit être n'importe où, et pas spécialement, ou pas du tout, la Palestine. Et Zangwill dirigera le plus important, l'ITO, Yiddish Territorialistische Organisation, en Yiddish, l'ITO, qui va effectivement, ça va être délirant, ils vont chercher, il va négocier avec des gouvernements dans le monde entier pour des territoires en Amérique du Sud, en Honduras, Pérou, en Mandchourie, enfin je veux dire, c'est un délire total, mais pendant 20 ans, il va le faire comme il est connu, il va réussir à pouvoir à négocier avec des gouvernements, évidemment tout à fait en vain. Et le mouvement va s'éteindre en 1924, et lui va mourir en 1926. Mais c'est aussi un mouvement, un moment, si vous voulez, c'est l'extrême absurde de cette idée humaniste qui ne pouvait pas durer, je crois. C'est-à-dire de chercher la définition abstraite d'un territoire. Il fallait bien atterrir à un certain moment. Et à partir du moment où on atterrit, on confronte certaines réalités locales. En Palestine, comme on sait, ce sera les Palestiniens. Et je ne crois pas que ça aurait pu durer. Cela dit, l'humanisme continuera. Les sionistes de l'époque étaient encore très humanistes, même ceux qui allaient en Palestine. Et si vous voulez, le mouvement le plus beau, je crois, c'était celui du Brit Shalom.
Voilà, qui vous occupe dans la troisième partie du livre. De quoi s'agit-il ?
Alors, c'est un mouvement qui a été longtemps, je dirais pas ignoré, mais mis à l'écart, qui était tabou pour l'historiographie sioniste officielle. Et là, je dois dire, il faut que j'insiste là-dessus, c'est qu'en travaillant sur Brit Shalom, j'ai découvert une nouvelle génération d'historiens israéliens. Je ne dis pas qu'ils sont tous très jeunes, mais ils sont beaucoup plus jeunes que les autres. Et ils sont fantastiques. Ils écrivent, malheureusement, ils ne sont pas encore traduits en France.
Ils essayent de déconstruire l'histoire mythologique qui avait été écrite avant eux, à bien des égards.
Oui.
Ou ils s'intéressent à des choses qui avaient été laissées de côté.
Oui. Brit Shalom en particulier, depuis les années 90 seulement, on s'intéresse à Brit Shalom. Des historiens magnifiques en Israël s'intéressent et écrivent des livres fantastiques autour de Brit Shalom ou sur Brit Shalom. C'est sans doute aussi à cause des circonstances politiques aujourd'hui, je crois. Parce que Brit Shalom, qui a duré seulement 7 ans en tout, c'était une petite, minuscule organisation, mais avec des personnalités très, très connues, qui prônait le binationalisme. Un État binational, et même certains, comme Hans Kohn, préféraient qu'il n'y ait pas d'État du tout. Donc, un État binational, au moment où commençaient à s'installer les structures pré-étatiques d'Israël. La Histadrout, le système d'éducation, d'assurance médicale, enfin, tout s'installait déjà. Et ce sera l'État d'Israël. Quand l'État d'Israël sera officiellement créé en 48, il y aura déjà une infrastructure existante qui commence à s'installer, à se créer dans les années 20. Et c'est à ce moment-là que ces gens magnifiques, y compris le colonisateur en chef de la Palestine, Arthur Rupin, qui est considéré par l'historiographie sioniste israélienne comme un des pères fondateurs d'Israël, c'est lui qui crée Brit Shalom, parce qu'il se rend compte qu'il y a une autre nation et qu'il faut reconnaître la légitimité de l'autre nation. Et donc il pense, et ils pensent tous, à un Israël binational. Ces historiens, j'espère qu'ils seront traduits parce qu'ils ont écrit des choses magnifiques. Je ne les connaissais pas avant de travailler sur ce livre. Quand j'ai travaillé sur Brit Shalom, j'ai découvert ces livres, ces textes. Et c'est un moment aussi, si vous voulez, utopique, utopiste. C'est un moment qui ne durera pas. Il dure 6 ans. Il est vrai que Brit Shalom est créé en 1926. En 1929, il y a les terribles émeutes et massacres en Palestine qui traumatisent une grande partie de la population juive, et on peut le comprendre. Et en 1933, bien sûr, il y a la montée d'Hitler au pouvoir, et ces gens qui viennent d'Europe centrale sont évidemment tout de suite, si vous voulez, cette organisation assez superbe se dissout. ce que je voulais dire, c'est que cette idée du binationalisme intéresse peut-être ces historiens à cause du contexte politique d'aujourd'hui, où la possibilité d'une solution du problème israélo-palestinien qui serait deux États, je dirais pas disparaît, mais s'éloigne et devient de plus en plus hypothétique. Et c'est peut-être pour ça que la question binationale, parce que nous allons vers, si cela continue comme ça, nous allons vers un État binational, qu'il soit démocratique ou pas, mais il sera binational si une solution aux deux États n'est pas trouvée. Et je crois que c'est cette situation qui a, quelque part, peut-être inconsciemment, poussé ces historiens à s'intéresser à Brit Shalom.
Alors ce livre, Uri Eisenstein, par définition, vous l'écrivez depuis aujourd'hui, depuis 2018, même si vous faites très attention à ne pas faire d'anachronisme. C'est le sens même de votre démarche. Pour pouvoir comprendre ce qu'était le sionisme, il ne faut pas en permanence projeter ce qui est devenu Israël et ce qu'est Israël aujourd'hui, sinon on s'interdit de comprendre, et c'est souvent ça le problème avec cette histoire. Néanmoins, vous écrivez ce livre depuis aujourd'hui, et d'ailleurs, vous le précisez, ces lignes étant écrites en 2018, la transformation a eu lieu et le discours théocratico-fascisant domine désormais l'univers prétendant encore relever du sionisme. Votre jugement est dur sur la situation actuelle lucide, probablement.
Oui, mais je ne crois pas que ce soit très difficile d'être dur quand on voit ce qui se passe en Israël-Palestine. Je veux dire, c'est une oppression d'un peuple qui continue, qui est justifiée par des discours délirants, mais des discours nationalistes. Quand je dis fasciste, j'utilise le mot pour aller vite. C'est un terme problématique dans la mesure où il ne s'agit pas vraiment du fascisme, mais je crois que dans notre société occidentale, y compris en Israël, on ne peut pas dire certaines choses, on ne peut pas faire certaines choses, on ne peut pas avoir une certaine politique ou une certaine vision des institutions et de l'État sans que la référence au fascisme des années 30 soit là. Ça ne veut pas dire qu'on refait le fascisme, mais il y a une filiation qui ne va pas plus loin que le fascisme des années 30 dans certaines idées, mais je ne parle pas seulement d'Israël, évidemment. J'habite aux États-Unis, et même si notre président actuel n'a aucune notion de l'histoire et de la réalité, de quelque réalité que ce soit, c'est extraordinaire, c'est la bêtise de ce monsieur, mais ce qu'il fait relève en grande partie d'une tradition. Par exemple, quand il dit « America first », qui était un des premiers slogans en 2016-2017, c'était une expression du mouvement américain fascisant, sympathisant des nazis de 1938. On ne peut pas dire « America first » sans qu'il y ait cette référence. Ça ne fait pas de Trump un fasciste, il ne saurait pas même comment épeler le mot. Donc en Israël, il y a des idéologies dominantes. Quand je dis dominantes, c'est parce qu'elles sont au gouvernement. Je ne suis pas sûr que la plupart des Israéliens aujourd'hui souscriraient à cette idéologie. Mais je crois qu'il y a un désespoir profond quant à une sorte d'inertie. C'est devenu une inertie, un désespoir quant aux possibilités d'un accord de paix qui permet à ces idéologies de dominer.
Un gouvernement, évidemment, qui s'entend particulièrement avec ce Donald Trump, avec lequel je commençais cette émission à propos de son tweet sur les frontières de 1967. La situation contemporaine, on en parle dans la deuxième partie de l'émission avec Carole Zalberg qui nous rejoint, mais c'est après un extrait de l'album du groupe suédois Death and Vanilla. Thank you.
suite dans les idées, Sylvain Bourmeau.
Le sionisme fut un humanisme, c'est le titre du livre d'Uri Eisenzweig dont nous parlons aujourd'hui. Uri Eisenzweig est professeur de littérature française à Rutgers University aux États-Unis. On en parle dans cette deuxième partie avec Carole Zalberg. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, romancière. Vous avez publié il y a quelques mois aux éditions Grasset ce livre Où vivre. Et je le faisais remarquer en commençant l'émission, il n'y a pas de point d'interrogation, ce n'est pas une question. Et pourtant, évidemment, on pense à cette question et elle fait écho à ce dont nous avons parlé avec Uri Eisenzweig, c'est-à-dire cette idée du départ qui est devenue une question urgente au courant du 19e siècle et en particulier après certains événements historiques, plusieurs consécutifs en Europe, et qui est à l'origine même de la création du sionisme comme idéologie et comme humanisme, pour reprendre l'expression d'Uri Eisenzweig. Qu'est-ce que vous avez, comment est né ce projet de livre qui mêle des temporalités différentes et qui met en place des échos entre différents pays, Carole Zalberg?
Je peux répondre à ça en revenant sur le titre et son absence de point d'interrogation. C'est où vivre, là, c'est vraiment justement moins dans le sens du départ que dans le sens de ce qu'on reçoit, puisque ce qui m'intéressait en priorité dans ce roman et le projet lui-même, c'était de questionner l'état d'esprit de ceux qui sont nés en Israël, de cette génération qui est née en Israël, donc qui n'a pas fait le choix de vivre sur cette terre si compliquée, si à la fois douloureuse et passionnante aussi. D'où l'absence de point d'interrogation, c'est vraiment dans le sens d'un héritage et de ce qu'on en fait.
En fait.
Voilà, on reçoit tous en quelque sorte un endroit où vivre, et qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on en part? Est-ce qu'on s'en accommode? Est-ce qu'on surmonte ces tiraillements? Et je voulais juste faire une remarque sur les bégaiements, parce que je trouve très beau cette interprétation qui serait pas la manifestation d'une incompétence, mais au contraire, c'est pas au contraire d'ailleurs, mais plus humainement, l'expression d'un tiraillement, et ça fait vraiment écho au livre, d'un tiraillement et presque d'un chagrin. Enfin, c'est ce que j'ai cru percevoir dans ce que vous dites au départ, et j'ai trouvé ça très très touchant et très juste.
Hésitation, un chagrin. Uri Eisenzweig.
Oui, je vous remercie parce que c'est effectivement le chagrin est là. Faut sourire aussi, faut être drôle, mais le chagrin est là, oui. Dans votre livre, ce que j'ai vu, c'est celui auquel le personnage auquel je me suis identifié. Je me souviens pas qui il est, mais c'est le nom Joachim. Parce que j'ai trouvé ça superbe. Plusieurs fois, il se retourne dans sa tombe, et j'ai trouvé ça vraiment.
Mais parce que j'ai pensé à ça constamment, en fait, en écrivant le livre. Et constamment à ce que penseraient ceux qui ne sont plus là et qui étaient vraiment à l'origine, puisque Joachim est un pionnier et qui rejoint, je pense, complètement cette vision humaniste d'Israël. Donc oui, tout le long du livre, quand on décrit les égarements, les tiraillements, et ça a été ma grande surprise en travaillant sur ce livre, c'est que à nos tiraillements, à nous, vus d'ici, plus que des tiraillements, d'ailleurs, un malaise, parfois un inconfort à aborder le sujet Israël et à se positionner et en même temps à résister à une forme d'injonction, correspond un tiraillement sur place. Vous l'avez dit aussi, je pense qu'une grande partie de la population ne se retrouve pas dans ce qui se passe aujourd'hui et dans la façon dont ils sont représentés. Et c'est terrible, comme c'est terrible aux États-Unis. Enfin, je pense que c'est une douleur permanente. Et en même temps, il faut bien vivre, il faut bien avancer. C'est pour ça que le roman, c'est avant tout suivre la trajectoire et le quotidien de ces individus et qui ne sont pas en train de raisonner, de théoriser, d'appliquer même pas une politique d'ailleurs, mais qui vivent et qui font avec cette situation et qui parfois partent, enfin pour certains.
Des retournements dans les tombes, il y en a un certain nombre dans votre livre aussi, d'une certaine façon, parce qu'on imagine bien, on se projette, on se dit mais qu'est-ce qu'aurait pensé de ce qu'est devenu ce projet, ses fondateurs,
Oui, je dirais quand même, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, mais je dirais quand même que l'État d'Israël est un État comme les autres, d'un certain point de vue, et je parlais du sionisme, d'accord. Mais je ne vois plus le sionisme dans l'État d'Israël, mais les politiques actuelles sont, je trouve, inadmissibles. Et j'ai des mots plus forts que je ne prononcerai pas ici, mais elles sont réversibles. Un État qui a une politique, ça peut changer. Alors, en Amérique...
Surtout quand il a des structures démocratiques...
Tant qu'elles sont là. Parce qu'en Israël, comme en Hongrie et d'autres pays, elles sont en danger maintenant.
D'ailleurs, les relations entre Viktor Orban et Netanyahou existent. Oui. Et certains n'hésitent pas à parler de montée en puissance de l'illibéralisme dans ces démocraties.
Tout à fait. Aux États-Unis, je crois quand même on est plus solide. Les institutions,
il y a des contre-pouvoirs peut-être.
Il y a des contre-pouvoirs. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'État d'Israël... ce qui me dérange, si je puis dire, alors que vous n'avez pas posé la question, mais ce qui me dérange, c'est un certain anti-sionisme qui identifie l'État d'Israël au sionisme et qui donc, critiquant l'État d'Israël, en fait critique la justification d'un refuge pour les Juifs. Et l'État d'Israël est un État qui doit se soumettre, je trouve, à toutes les lois internationales et donc est condamnable. Comme d'autres États sont condamnables. Je préfère séparer la condition actuelle en Israël de la question du sionisme.
Oui, il termine ce livre, Uri Eisenzweig, par cette phrase, d'où l'anachronisme dans l'identification contemporaine de l'État d'Israël au sionisme, identification qui n'est répandue que parce qu'elle est utile à la rhétorique politique de part et d'autre du conflit autour d'Israël-Palestine. C'est-à-dire que sioniste devient un mot qui est utilisé à la fois par les autorités israéliennes et par ses ennemis, Carole Zalberg.
Oui, et d'ailleurs, le projet du livre, c'était aussi de revenir à l'origine du sionisme, ou en tout cas à l'élan qui a emporté tous ces gens qui parfois étaient très très jeunes, avaient souffert de la guerre ou étaient partis avant. Et j'ajouterais la dimension, parce qu'il y a effectivement la question du refuge, mais la dimension, parce qu'il est aussi beaucoup question des kibbutz dans ce livre. Il se trouve que c'est dans l'histoire familiale et que c'est un roman très inspiré de l'histoire familiale. Mais en plus de l'idée du refuge, il y avait aussi cette idée d'une société plus juste, et une sorte de rêve magnifique qui s'est concrétisé quand même assez longtemps. Et moi, je me souviens enfant, parce que ensuite j'ai cessé d'aller en Israël pendant une trentaine d'années, exactement 30 ans. Mais j'allais une fois par an au kibbutz où vivait ma tante, qui a inspiré le personnage de Léna dans le livre. Et j'étais absolument fascinée par ce qui se construisait, ce qui réussissait en fait là-bas. Et c'est un autre chagrin, c'est un autre déclin douloureux que de voir que tout ça s'est finalement perdu, alors que c'était là et que ça aurait pu réussir, ça aurait pu vraiment fonctionner.
Votre trajectoire biographique et géographique, Uri Eisenzweig aussi, pourrait abonder dans ce sens, ce type d'expérience.
Oui, j'aurais pu figurer dans son roman, parce que je suis parti. En fait, j'étais arrivé aussi tard, je n'étais pas né là. Enfin, ma biographie n'a pas d'intérêt, je trouve. Ce que j'ai beaucoup aimé dans votre livre, il y avait un moment, donc il y avait l'assassinat de Rabin, et tous les personnages, chaque personnage séparément se demande ou dit où il était au moment de l'assassinat. Ce qui fait, évidemment, ça, c'est, si vous voulez, c'est un cliché en Amérique.
À propos du 11 septembre.
Non, à propos de l'assassinat de Kennedy, du premier Kennedy. Enfin, il y a peut-être aussi le 11 septembre, mais à Kennedy, on se pose toujours la question, où étais-je? Et quand j'ai lu ces passages, je me suis demandé où j'étais. J'étais, je crois, à Paris, mais je ne suis pas sûr. Ah non, novembre 95, non, j'étais aux États-Unis.
Mais ce qui me semblait intéressant dans cette question, c'est que, comme d'habitude, on n'a pas forcément conscience sur le moment de ce que ça implique. Et donc, poser la question et faire en sorte que qu'on s'interroge après coup sur ce qu'on faisait ou comment on a perçu l'événement, je trouve ça très éclairant parce que c'était vraiment le début de la fin, en quelque sorte, en tout cas d'une certaine certaine, d'un certain espoir de paix, mais chacun l'a perçu à sa mesure, là encore, pris dans sa vie, son quotidien. Donc c'est un tournant finalement, et dans l'histoire que je raconte, et je pense aussi sur place. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté en parlant avec des Israéliens.
Oui, là, je serais peut-être en léger désaccord, c'est un moment traumatisant, mais je dirais pas que c'est le tournant, c'est la fin du tournant.
La fin du tournant,
peut-être. Le tournant a commencé en 67, je crois.
Oui, non, mais je suis absolument d'accord avec ça, mais disons que c'est la concrétisation, la manifestation de ce tournant, de ce long tournant.
Et en fait, Rabin, dans votre roman, rejoint Joachim dans la tombe.
Oui, voilà.
Alors, 67, date avec, par laquelle s'ouvre votre livre, Uri Eisenzweig, l'idée n'étant pas, avec ce livre, de considérer que il pourrait s'inventer ou que le sionisme pourrait renaître, qui n'aurait aucun sens d'un point de vue historique. Le sionisme s'est terminé, ça n'a pas de sens, ce qui ne veut pas dire que l'humanisme se soit terminé, qu'il faut trouver peut-être d'autres formes à cet humanisme dans cette situation.
Oui, tout à fait. Non, mais l'humanisme, je crois, je ne veux pas être partisan, mais quand même, pour moi, l'humanisme est toujours de gauche, il y a une gauche. Il n'y en a pas beaucoup en Israël pour le moment, mais la gauche reviendra à un moment ou un autre. En Israël, comme aux États-Unis, même la Hongrie, pourquoi pas, j'y connais rien. Mais certainement en France, aux États-Unis, en Israël, des pays où la gauche a existé et a fait de très belles choses, je crois qu'il y aura un moment où nous y reviendrons. Ce n'est plus le sionisme, c'est tout, c'est autre chose.
Oui, dans cette logique-là, j'ai lu un article qui évoquait une nouvelle forme d'alia, c'était dans un journal américain, je ne sais plus lequel, de jeunes qui partent en Israël, non pas parce qu'ils sont juifs et qu'ils veulent vraiment coloniser, aller sur la terre qui serait leur terre de tout temps, mais pour militer, pour l'accueil des réfugiés, en fait pour des questions qui pourraient se jouer n'importe où ailleurs, et je trouvais que c'était une très bonne nouvelle, c'était plutôt encourageant pour l'avenir d'Israël.
Oui, je peux vous dire que ma fille a milité en Israël dans une association pour les droits de l'homme pendant tout un été, disons.
Alors qu'elle a grandi aux États-Unis, donc c'était un choix de...
Oui, mais aujourd'hui nous sommes cosmopolites, je crois.
Ce sera une belle conclusion. Merci Uri Eisenzweig. Merci Carole Zalberg. Je rappelle le titre du livre d'Uri Eisenzweig, Le sionisme fut un humanisme, il paraît aux éditions du Seuil. Et le titre du roman de Carole Zalberg, Où vivre, il paraît aux éditions Grasset. Vous trouvez les références bibliographiques des deux titres sur la page de l'émission, sur le site de France Culture, une page où vous pouvez réécouter la suite dans les idées, et vous pouvez également vous abonner au podcast. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production, Chouchane Djergaïan, à la technique aujourd'hui, Alain Joubert, à la réalisation, Anne Pérez Franchini. Et dans quelques instants, c'est Christine Bernard que vous retrouvez sur l'antenne de France Culture pour une histoire particulière.